Gaston Leroux, la machine à assassiner, avant-propos. La machine à assassiner, quelle est cette invention nouvelle? Et le besoin s'en faisait-il réellement sentir? Oh, il ne s'agit peut-être après tout que de cette vieille invention, sortie des mains de Dieu au plus beau jour d'Éden et qui devait s'appeler l'homme. En vérité, l'histoire, depuis ses premières empreintes aux parois des cavernes jusqu'aux plus récents rayons de nos bibliothèques, est là pour attester que l'on n'a point encore trouvé de meilleure mécanique à répandre le sang. Vouloir faire mieux que le Créateur, c'est là le fait d'un génie diabolique, une nouvelle forme de la lutte éternelle entre le prince des Lumières et celui des Ténèbres. Le malin se glisse où il veut. Pour ceux qui ont lu la poupée sanglante qui est à l'origine de ce récit, il ne peut faire de doute qu'il ait eu domicile dans la boutique du vieil horloger de l'île Saint-Louis, ni que ce soit lui qui anime de ses maléfices le triple mystère qui, dans cet antique quartier et tout gris encore de la poussière des siècles, met aux prises d'une part l'inquiétante famille du vieux Norbert, lequel passe pour chercher le mouvement perpétuel, aidé de sa fille, la belle Christine, et de son neveu, le prosecteur Jacques Cotentin, et d'autre part, le marquis de Coulteret, cet être éternellement jeune, qui a 40 ou 200 ans, c'est au juste, et qui fait à côté de la marquise sa femme, si pâle et toujours agonisante, une singulière figure d'empouse. L'empouse est un vieux mot qui, dans le langage satanique, désigne les vampires, tout simplement. Enfin, en troisième lieu, le terrible Bénédicte Masson, le relieur d'or de la rue du Saint-Sacrement, qui vient d'être condamné à mort et exécuté pour avoir brûlé dans son poêle une demi-douzaine de jeunes et jolies femmes, au moins. Et à ce propos, il convient de citer ici la dernière phrase du volume précédent, intitulé « La poupée sanglante ». L'auteur avait traité de sublime l'aventure de Bénédicte Masson. En quoi donc pouvait être sublime une aventure qui conduisit son héros à une mort aussi ignominieuse? En ce que cette aventure, répliquait l'auteur, ne faisait que commencer. Voilà des lignes qui, s'appliquant à un homme qui vient d'avoir la tête tranchée, apparaissent bien étranges. Aussi n'en a-t-il pas moins fallu d'un second volume que voici, et que nous appelons « La machine à assassiner », pour qu'elle soit expliquée d'une façon peut-être redoutable, mais à coup sûr normale. Normale, car nous avons la science avec nous, qui nous protège, nous soutient, nous encourage dans cette incursion vertigineuse au bord du grand abîme. La science, dites-vous ? Tout à l'heure, vous parliez de Satan. Satan ? Oh, eh bien, peut-être s'entendra-t-on un jour sur le nom qu'il faut donner à tout ce qui nous éloigne de la candeur première. Chapitre 1. La camomille de Mademoiselle Baresca. Voici une petite rue paisible, endormie depuis 2 siècles, où le plus gros événement de la journée, pour certains fossiles qui achèvent de sécher derrière la porte de leur boutique ou les rideaux de leurs fenêtres, est un couple de touristes égarés qui passent. Une visite inattendue chez le voisin, la sortie inopinée d'une jeune personne qui a mis une toilette neuve, les stations répétées de la demoiselle de l'horloger chez le relieur d'art, et tout à coup, ce quartier apprend que le relieur d'art est arrêté pour avoir chauffé son poêle avec une demi-douzaine de pauvres femmes qui s'en sont allées ainsi en fumée, et qu'il a été surpris dans sa besogne d'enfer par cette même demoiselle de l'horloger qui n'a dû qu'à un miracle d'échapper au sort qui l'attendait. Il n'est certes point difficile d'imaginer la perturbation apportée dans les mœurs et les habitudes de ce coin de l'île Saint-Louis, et particulièrement dans la société de Mademoiselle Baresca, Mercière par ce drame épouvantable. Du quai de Béthune à l'Estacade, on vivait sous le régime de la terreur, comme disait Madame Langlois, ex-femme de ménage de cet affreux Bénédicte. Le commerce de la serrurerie avait fait dans l'île Saint-Louis de brillantes affaires pendant les mois qui s'étaient écoulés entre l'arrestation et l'exécution de Bénédicte Masson. Il n'y eut jamais tant de verrous aux portes et jamais les portes ne furent mieux fermées la nuit. Par peur de quoi ? Que Bénédicte Masson ne s'échappât. Peut-être, mais il y avait aussi autre chose. Personne n'allait plus chez l'horloger depuis que le bruit s'était précisé que, de ce côté, il y avait encore un sacré mystère, selon l'expression de M. Birousse, herboriste. Un sacré mystère que le procès du relieur n'avait nullement éclairci. Les uns parlaient à mi-voix d'un séquestré. Les autres, comme M. Birousse, assuraient qu'il s'agissait d'un malade tout à fait exceptionnel que le prosecteur, aidé de l'horloger et de sa fille, traitait d'une façon non moins exceptionnelle, et il ajoutait « Oh, s'il est bien gardé, c'est qu'il est peut-être dangereux. Je ne puis vous dire qu'une chose, c'est que je sais que le prosecteur lui travaille le crâne. Souhaitons pour le quartier qu'il ne s'échappe pas. » Comme on le voit, les propos de M. Birousse n'étaient point rassurants, dans un moment où l'île Saint-Louis n'avait vraiment pas besoin qu'on lui apportât de nouveaux sujets d'inquiétude. Cependant, l'exécution de Bénédicte Masson à Melun avait calmé bien des nerfs. Certaines arrière-boutiques revirent peu à peu leur réunion du soir, et c'est ainsi que nous allons pouvoir assister à la camomille de Mademoiselle Baresca, qui était servie le mercredi et le samedi à domicile, quand les 9 coups de l'heure avaient sonné à Saint-Louis-en-Lille. Ce ne fut pas sa plus brillante camomille, il n'y vint que 3 personnes pour y faire honneur, mais l'événement qui s'y produisit, par son importance immédiate et par ses conséquences incalculables, en fit certainement une camomille historique. Monsieur Birousse, le voisin immédiat de Mademoiselle Baresca, et qui, justement, en sa qualité d'herboriste, lui procurait sa camomille à prix réduit, se présenta le premier. Il fut bientôt suivi de Madame Camus, la loueuse de chaises, une protégée de M. Lavieuville, Marguillet, un personnage d'importance. Mais ce soir-là, le principal ornement de cette petite réunion fut sans contredit Madame Langlois elle-même. Madame Langlois, comme nous avons pu en juger déjà, quoique femme de ménage, n'était point la première venue, elle avait une situation. Après avoir été demoiselle de magasin, elle s'était mariée et avait dirigé une petite entreprise de mode, où elle avait promptement fait faillite, fort honnêtement du reste, et elle travaillait depuis la mort de son mari comme une mercenaire, mais le front haut pour désintéresser ses derniers créanciers retrouvaient son bonheur perdu. Ce César Birotteau femelle était resté volontairement dans le quartier qui avait vu sa déconfiture pour qu'il assistât à ses efforts de fourmi et, s'il plaisait à Dieu, à son triomphe. Avant cette terrible affaire de Bénédicte Masson, de qui elle avait épousté si longtemps le pauvre mobilier, elle avait l'estime du quartier. Pour la retrouver tout entière et prouver qu'elle était la première à se réjouir du châtiment suprême qui attendait le monstre, elle avait eu le courage, elle, faible femme, d'aller à Melun, renseigner exactement qu'elle avait été sur le jour de l'exécution par M. Lavieuville, chez qui elle travaillait 2 heures par jour pour le gros ouvrage et qui était intime avec un gros bonnet du parquet. Elle était donc allée à Melun, où elle avait assisté, au premier rang, disait-elle, au supplice du Barbe Bleue de Corbillère. L'héroïsme qu'elle avait montré en cette circonstance et le récit qu'elle avait fourni, dévisu, d'un événement si impatiemment attendu, l'avait presque mise à la mode, si bien qu'il ne faut pas s'étonner de ce que Mademoiselle Varesca l'eût prié ce soir-là à sa camomille. Aussi bien chacun lui fit fête, et il n'est point jusqu'au chat de la mercière qui ne l'accueillit de son plus agréable ronron. Maintenant, il est 9h30 et nous approchons de la minute historique. Ma foi, je ne sais pas si nous aurons le bonheur de posséder ce soir M. Tannegrin pendant sa Mlle Varesca, mais nous n'attendrons pas plus longtemps. Mais tant pis pour les retardataires. Qui veut de ma camomille ? Oh, dommage, fit entendre Madame Camus, la loueuse de chaise, car celui-là est toujours rigolo, mais par le froid qu'il fait, il doit avoir son rhumatisme. Quand on eut ainsi donné un souvenir à M. Tannegrin, ancien clerc d'huissier, défenseur officieux près de la justice et diseur au désert de monologue, on fit fête à la camomille de Mademoiselle Varesca, qu'elle savait agrémenter d'un rien d'anis étoilé, ce qui en faisait, suivant l'appréciation de la loueuse de chaise, un breuvage exquis. Le thé énerve et empêche de dormir, disait Mademoiselle Varesca, tandis que la camomille est digestive et bonne pour l'intestin quant à l'anis étoilé. Un nom vulgaire de la badiane, laissa tomber la voix grave de M. Birouste, l'herboriste. Plante de la famille des Magnoliacées, antispasmodique, galactalogue, stimulante, à recommander pour les flatulences. Ah, vous voilà toujours avec vos grands mots, vous, releva Madame Camus, qui regrettait l'absence de M. Tannegrin, le diseur de monologue. « Ben, sans compter que c'est avec ça que l'on fabrique la disette, » répartit M. Birouste, qui était un véritable puits de science. « La disette, j'ai toujours aimé ça, moi, » proclama Mme Langlois, qui n'avait encore rien dit. Elle se rendait parfaitement compte de son importance et savait combien ses paroles étaient attendues. Aussi, elle se réservait. Elle se faisait prier pour raconter l'exécution de Melun comme une demoiselle de l'ancienne petite bourgeoisie pour se mettre au piano. Enfin, sur la prière de tous, elle se décida. Elle raconta ce voyage héroïque dans tous ses détails. Elle n'oublia rien. Avec un mot de M. Lavieuville, elle était allée tout de suite chez l'avocat général, qu'elle avait trouvé encore au lit, et qu'il avait recommandé au capitaine de gendarmerie, lequel l'avait placé au premier rang, et qu'il avait reçu dans ses bras quand le couteau était tombé, car alors elle était plus morte que vive. « Lui aussi !» fit M. Birouste. « Quoi, lui aussi ? Ben oui, bien, lui aussi, il était plus mort que vif. « Oh, pensez-vous, un capitaine de gendarmerie ? Non, non, je parle du guillotiné !» Ah bien, il ne s'agit que de s'entendre. Avec vous, on ne sait jamais. Oui, il est toujours un peu prince sans rire, ce Birouste, fit Madame Camus, qui ne l'aimait pas. Alors vous avez eu le courage, comme ça, de le regarder bien en face, questionna Mademoiselle Varesca. Reste tranquille, Misty. Je ne sais pas ce qu'il a ce soir, ce chat, mais il ne tient pas en place, il est comme un crin. « Oui, Mademoiselle Varesca, je l'ai regardé bien en face, et nos yeux se sont croisés, et il m'a reconnu. Ah, nous nous en sommes dit des choses dans ce moment-là. Il ne s'en vantera pas, je vous prie de le croire. »« Oui, il y a des chances, acquiesça M. Birouste. »« Oh, avec vous, il n'y a pas moyen de causer, » gémit Madame Camus. « Mais laissez-la donc, nous ne saurons rien si vous l'interrompez tout le temps. » Pendant ce temps-là, M. Birouste était bien tranquille dans son lit, fit remarquer avec un sourire acide Mme Langlois. Avez-vous eu des renseignements particuliers sur ces derniers moments, sur le réveil dans la prison, par exemple? Se hâta de demander Mademoiselle Baresca, qui savait qu'il était de son devoir d'empêcher qu'autour de sa camomille, la discussion ne s'envenimât. Ah, ma chère demoiselle, ne m'en parlez pas. Quand on l'a réveillé, oh, car il dormait comme un loir, il a dit: Eh bien, vrai, c'est pas trop tôt. Et ce qu'il a passé à la justice, ah, ce qu'il a pris pour son rhume, l'avocat général. Ah, l'avocat général était enrhumé? Demanda Monsieur Birouste. Oh, vous! S'écria Madame Camus indignée, vous êtes plus cynique que l'autre. Mais ces gens-là, on devrait les guillotiner deux fois. Merci, fit Monsieur Birouste. Ben, je ne parle pas de vous. Vous croyez qu'on ne pense qu'à vous. Je dis que des gens comme ce Bénédicte. Avez-vous vu les verres qu'il a laissés pour la Christine? Interrompit Mademoiselle Baresca. Oui, j'ai lu ça dans les journaux, répondit Madame Langlois. Mais moi aussi, j'en ai des verres de sa main. Non. Si, tenez, je les ai apportés. Comprenez, c'est un souvenir, une affaire pareille. Sans compter qu'on me les paierait cher. Je les ai chipés dans son buvard, la dernière fois que j'ai fait son bureau. C'était encore des vers pour la Christine, lisez. Oh, que c'est drôle! S'écrièrent d'une même voix Mademoiselle Baresca et Madame Camus. En effet, Madame Langlois sortait de son sac un papier qu'elle dépliait et qui présentait des lignes inégales, preuve que c'était des vers, mais d'une écriture extraordinaire, faite de lettres énormes, qui semblait se combattre ou se confondre dans un chaos multicolore, car telle lettre était verte, telle autre rouge ou bleue ou jaune, et il y avait autour de tout cela de fulgurants paravents violets. Les manuscrits de Barbey d'Aurevilly, à côté de ceux-ci, étaient d'un enfant bien sage. Et ils lurent. J'ai ramassé mes péchés. Oh, les invités, c'est pas ce qui lui manquait. Je les ai mis devant moi et j'ai pleuré. Oh, il pouvait, il pouvait. Une caravane partait pour le ciel. J'ai endossé mes péchés et je les suivis. Mais un ange m'est apparu et m'a dit: Où vas-tu si piteusement? Avec ce fardeau dont tu es chargé, tu n'arriveras jamais au paradis. Et l'ange Christine m'a aidé à le porter, cet horrible fardeau. Eh bien, c'est du propre. Il n'y a plus rien à dire, conclut Mademoiselle Varesca. Elle l'a aidé à aller en paradis, compris. Et cette écriture, je la reverrai toute ma vie, proclama Madame Camus. Mais c'est une écriture d'assassin. Prononça Monsieur Birouste qui avait mis ses lunettes. Ah, encore un mot, dit Madame Langlois en rangeant précieusement son manuscrit. Vous savez que l'école de médecine a réclamé sa tête? Oui, on l'a dit dans les journaux. Et vous ne savez pas qui l'a emporté? Ah, non. Un garçon qui n'est pas tout à fait inconnu dans le quartier. Ah, j'ai bien reconnu, allez, il était planté à la porte du cimetière, comme s'il avait déjà peur qu'on lui chipe sa marchandise. Je parie que c'est Baptiste, s'écria Monsieur Birouste. Qui est-ce Baptiste? demanda Mademoiselle Baresca. Le garçon d'amphithéâtre dont je vous ai parlé, l'aide de Jacques Cotentin. Ah, mais je me rappelle, s'écria à son tour Mademoiselle Baresca, cet être répugnant qui avait toujours une grande boîte sous le bras quand il venait le soir chez l'horloger. Juste. Eh bien, je vais vous dire, continua Mademoiselle Baresca, la dernière fois que je l'ai aperçu, c'était le jour même qu'on venait d'exécuter le Bénédicte. Oh, il pouvait être 9h30, peut-être un peu plus. Une auto s'est arrêtée devant la porte de l'horloger. Vous pensez, si je m'en souviens, ça n'arrive pas tous les jours, une auto devant la porte des Norbert. Et cet homme-là en est descendu. L'auto est repartie tout de suite. La porte de l'horloger s'était ouverte et le carabin de la Christine, qui semblait attendre le Baptiste, lui a pris aussitôt la boîte qu'il apportait. La porte s'est refermée. Attendez, attendez. C'est depuis ce jour-là, du reste, qu'on n'a plus ôté les volets de la boutique. C'est comme une tombe maintenant, cette maison-là. Oui, fit la voix grave de M. Birouste, le mystère continue. Il y eut un silence, et puis Mademoiselle Maresca. Enfin, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous, Monsieur Birouste ?
Je ne pense pas, déclara solennellement Monsieur Birouste. Je réfléchis.
Enfin, mais parlez-vous sérieusement, oui ou non ?
Très sérieusement. Je ne sais que penser parce que je réfléchis.
Enfin, votre idée, vous, Madame Langlois, demanda Madame Camus. Monsieur Birouste se moque toujours de nous. Vous êtes bien sûr, Mademoiselle Maresca, demanda Madame Langlois, que ces choses se passaient le matin même de l'exécution.
Sûr comme je vous vois.
Et ce Baptiste avait sa boîte sous le bras.
Je vous le dis.
Mais c'est que là-bas aussi, à Melun, il tenait sa boîte sous le bras.
Ce serait donc qu'il aurait apporté la tête au prosecteur, s'écria Madame Camus.
On ne sait jamais avec des carabins, déclara péremptoirement Madame Langlois. Moi, j'ai fait le ménage d'un interne de la Pitié. Eh bien, il y avait que des têtes de mort sur son bureau. Il s'en servait comme de presse-papier, mais de vraies têtes de mort. On a beau être carabin, des sacrilèges pareils, ça devrait être défendu.
Vous parlez comme des enfants, prononça alors M. Birouste. Et elles se turent toutes trois, car au ton dont cela avait été dit, elles avaient compris que M. Birouste ne plaisantait plus et parlait, lui, comme un homme qui avait quelque chose à dire. Et voici ce qu'il dit. La science n'est faite que de ces sacrilèges-là.
Nous ne pensons calomnier personne en avançant que M. Birouste était un petit esprit. Nous ne parlons bien entendu que de cet horrible herboriste-là, car nous connaissons des herboristes qui sont des esprits remarquables. Mais M. Birouste était un petit esprit. Plus que l'épicier, mais pas autant que le pharmacien, la nature lui avait créé une position mixte entre les deux règnes. À lui la casse et le séné, la rhubarbe et le jalape, le bouillon blanc et la rose de Provins, le mouron pour les petits oiseaux et la graine de moutarde. C'est déjà beaucoup pour un petit esprit. Mais ce n'était pas assez pour M. Birouste. Sous prétexte qu'il connaissait les lois qui président à la conservation des plantes, il n'était pas loin de prétendre avoir pénétré celles qui régissent toute la nature. En tout cas, on ne pouvait devant lui faire allusion à la science, à ses miracles, à ce qu'elle nous réserve dans un proche avenir, sans le voir se dresser comme jadis M. Prudhomme, dès qu'il s'agissait de la garde nationale ou des grandes institutions du pays qui avaient eu l'avantage de lui donner le jour. Comme lui, il disait « Oh, rien de ce qu'on fait de nos jours ne m'étonne. » Nous avons vu également que rien non plus n'étonnait Jacques Cotentin, qui lui était un grand esprit. Ce qui revient à dire que dans les problèmes les plus vastes, les plus redoutables et qui font craintivement se détourner le moyen des intelligences raisonnables, les grands et les petits esprits se rejoignent. Cependant, une légère différence. Là où les grands esprits marquent encore un peu d'inquiétude, les petits affirment avec assurance. Conclusion quand même, ne sourions jamais de ce que dit un imbécile ou un homme de génie. Ils ont quelquefois raison tous les deux. Tandis que les gens raisonnables ont souvent tort. Mademoiselle Baresca, Madame Camus et Madame Langlois étaient sans doute imbues de ces vérités premières, car elles étaient loin de sourire. Monté sur son cheval de bataille, la science, le héros de la guimauve et des quatre fleurs, l'ange conservateur de la bourrache et du romarin, passa son auditoire en revue. Il le méprisait du reste profondément, ce que nous avons pu voir à certaines réparties moins humoristiques que peu respectueuses pour le sexe auquel M. Birouste avait lu sa mère. Enfin, ces dames étaient attentives. Il les regarda avec sévérité. Ne parlez jamais des hommes de science. Vous me mettez hors de mes gonds quand je vous entends traiter de carabin, un Jacques Cotentin. Mais Jacques Cotentin, mesdames, est un grand savant. Si vous ne le savez pas, permettez-moi de vous l'apprendre. Il a publié des articles que vous ne sauriez comprendre, mais qui m'ont fait réfléchir, moi. Je sais, d'autre part, que l'école de médecine a les yeux sur lui et que l'on attend de ses travaux un de ces miracles qui datent dans l'histoire de l'humanité, dans lequel je saurais le préciser. La présence chez lui de cet étrange malade que Madame Langlois nous a dit s'appeler Gabriel se rattache-t-elle à ce miracle-là? C'est possible. D'autres doivent être renseignés. J'ai un neveu, le petit Célestin que vous connaissez, qui a commencé par travailler chez moi, qui fait sa médecine, qui fréquente les travaux pratiques de l'école, qui connaît Baptiste et qui en a entendu parler là-bas comme d'un être précieux et fort mystérieux, chargé de mettre à la disposition de Jacques Cotentin des pièces anatomiques qui lui sont livrées par certains professeurs, dans des conditions tout à fait exceptionnelles. Ces pièces anatomiques, encore toutes frémissantes de la vie, permettent sans aucun doute aux jeunes prospecteurs de se livrer à des expériences in anima willi en rapport avec les théories qu'il n'a fait qu'aborder dans ses remarquables communications à la Nouvelle Revue d'Anatomie et de Physiologie humaine. Ces théories posent nettement la question où finit la vie, où commence la mort. Et savez-vous bien qu'avec sa restauration possible de l'énergie utilisable dans les êtres vivants, nous pouvons envisager le moment où nous supprimerons la mort. Oh, supprimer la mort, éclata Mademoiselle Baresca dans un cri plein d'espoir. Oh, oui, mais nous n'en sommes pas encore là. Laissa tomber M. Birouste en manière de douche froide. Malheureusement, soupirèrent les autres dames. Mais qui sait, reprit M. Birouste d'un air inspiré. N'en sommes peut-être pas si loin. Que faisons-nous aujourd'hui, sinon supprimer la mort dans presque toutes les parties du personnage humain? La chirurgie, avec sa grève des organes ou des chairs, ne refait-elle pas presque entièrement l'individu? Cette dernière guerre lui a donné l'occasion, hélas, de refaire des visages entiers. La mécanique s'en est mêlée et une locomotion artificielle est venue ajouter son miracle à celui de la chirurgie. Événement inouï! On a vu faire revivre un cœur mort. « Mais comment cela? Comment cela? Monsieur Birouste, vous allez un peu loin !» s'écria Mademoiselle Baresca, haletante. Elle avait souvent des étouffements et était persuadée qu'elle mourrait du cœur. « Nullement, mademoiselle, de la façon la plus simple du monde. On a ouvert un petit volet dans les côtes. »« Oh, mon Dieu! Et vous appelez cela simple, vous ?» Et par ce volet, le chirurgien a pratiqué des pressions rythmiques qui ont rétabli la circulation suspendue, c'est-à-dire qu'il a ressuscité le mort. Oh, mon Dieu, mais c'est comme qui dirait Lazare, soupira Madame Camus, que cette conversation médusait. On a fait mieux. Oh, c'est pas possible. Carrel, vous avez bien entendu parler de Carrel.
Oui, Carrel, les journaux en ont parlé.
L'un de ceux pour qui les Américains ont créé l'Institut Rockefeller. Eh bien, il a conservé un cœur vivant, dans un bocal parfaitement. Il l'a plongé dans un certain sérum connu de lui, et le cœur vit toujours.
Et le cœur vit toujours, toujours.
Il a fait de même pour un morceau de cerveau. Il aurait pu le faire pour un cerveau tout entier.
Oh, c'est incroyable!
Mais alors, questionna Mademoiselle Baresca, ce Jacques Cotentin serait un savant dans ce genre-là?
Et parfaitement. Mais moi, après avoir lu de lui ce que je vous ai dit, et aussi ce que je ne vous dis pas, parce que je vous le répète, il y a des choses que vous ne sauriez comprendre, je déclare qu'il laissera un jour derrière lui tous les Carrel et tous les Rockefeller de la Terre.
Pas possible. Et vous croyez qu'il fait des expériences avec son Gabriel?
Bah, Mademoiselle Baresca, je ne suis point dans le secret des dieux, je veux dire des savants qui sont les dieux du jour. Je n'ai fait qu'émettre des hypothèses.
Oui, alors Gabriel n'est peut-être après tout qu'un mutilé de la guerre qu'ils veulent rafistoler, émit Mademoiselle Baresca. Encore un peu de camomille, Madame Camus?
Trop aimable, Mademoiselle Baresca. Il est bien beau, Gabriel, prononça Madame Langlois.
Je voudrais bien le voir de près, déclara Mademoiselle Baresca.
Chapitre 2. Où, pour son malheur, Mademoiselle Baresca, mercière, voit enfin Gabriel de près. À ce moment, Madame Camus se leva.
J'entends des pas dans la rue. Je parie que c'est Monsieur Tannegrin, fit-elle en se dirigeant vers la porte.
Ce serait pas trop tôt qu'on nous fasse rire un peu. Toutes ces histoires me donnent la chair de poule à moi.
Écoutez le vent qui chante, avec ça qui commençait à neiger quand je suis arrivé. Monsieur Tannegrin viendra pas par ce temps-là, opina Madame Langlois.
Cependant, les pas se rapprochaient avec rapidité et deux coups furent frappés à la porte.
Oh, je reconnais sa façon de frapper, déclara Madame Camus. C'est Monsieur Tannegrin.
N'ouvrez pas avant d'être sûr, lui cria
Mademoiselle Baresca. Mais déjà, Madame Camus avait poussé le verrou et ouvert la porte. D'abord, il y eut un tourbillon de vent et de neige qui s'engouffra dans la boutique, et puis, rapportons ici le témoignage que les invités de Mademoiselle Baresca et la maîtresse de maison elle-même durent faire quelques jours plus tard, et à leur corps défendant, de l'événement sensationnel qui entra dans cette boutique comme porté par la tempête. Disons tout de suite que cet événement était un enlèvement, mais quel enlèvement! D'abord, Madame Langlois.
Je vais tout vous dire, monsieur le commissaire. Faut jamais faire un vœu ni un souhait, parce que c'est comme dans la fable, ça peut vous sauter au nez. Mademoiselle Baresca, qui nous avait prié un sac à momie, venait à peine de dire « Je voudrais bien le voir de près, votre Gabriel. Quelle voilà, justement, qui entre comme un démon de la tempête tout couvert de sang, ça. Et portant Mademoiselle Norbert, la demoiselle de l'horloger, évanouie sur son bras comme si elle pesait pas plus qu'un fichu de dentelle. À elle aussi, le sang lui coulait de la figure. Oh, nous avons tous poussé un cri, comme vous pensez bien, un cri horrible, moi j'ai crié. Mais c'est lui, Gabriel. Oh, Seigneur, je vivrai 100 ans.
Nous étions comme des statues de la terreur, quoi, devant une invasion pareille. Cette neige, ce sang, et cet homme qui nous menaçait de son revolver. La première fois que j'avais vu cet homme-là chez l'horloger, il m'avait paru beau. Oh, mais maintenant, je ne pouvais plus dire. Je ne vois plus que ses yeux, qui étaient épouvantables, des yeux d'assassin, oui. Vous protégerez. J'ai confiance dans la justice de mon pays. Oh, ça oui. Oh, pour des yeux d'assassin, c'était des yeux d'assassin. Quand il me regardait, je croyais que j'étais assassiné. Je vivrais 100 ans. Oh, je l'ai déjà dit. Je me répète, faut me pardonner, ma pauvre tête. Ce qu'il a fait, il a commencé à fermer la porte derrière lui d'un coup de talon. Aïe, donc, à la défoncer, et puis il a poussé le verrou. Oh, je vivrais 100 ans. Là-dessus, M. Birouste, l'herboriste qui s'était réfugié derrière le comptoir, a crié « Oh, les mains, faites comme moi !» Alors, nous avons tous montré nos mains, comme au cinéma. Et le chat de Mademoiselle Baresca s'est enfui d'un bond terrible. On l'a plus revu, lui. Quant à Gabriel, lui, il disait rien. Mais après avoir écouté à la porte, il a déposé la Christine sur le comptoir, toute son long. Et il s'est mis à chercher, comme qui dirait, un mouchoir dans ses poches. Bien sûr, pour essuyer le sang qui coulait toujours du front de la demoiselle. Mais il trouva pas de mouchoir. Et alors ? Alors, monsieur le commissaire, la boutique de mademoiselle Baresca, ce qu'elle a pu prendre, la boutique, je vivrai 100 ans. Pour savoir ce que Gabriel a pu faire de la boutique de mademoiselle Baresca, laissons parler mademoiselle Baresca elle-même. Si son récit est un peu décousu, n'en voulons pas trop à la vieille demoiselle, qui depuis cette heure historique a perdu un peu de la fraîcheur de ses facultés, cherche un peu ses mots, tombe parfois dans un anéantissement profond, pour en ressortir tout à coup comme si elle était touchée par une pile et rejeter la tête en arrière si brusquement, si spasmodiquement, que les choux de ruban de son bonnet à l'ancienne semblent danser sur son faux chignon une façon de chimie épileptique. Ah, monsieur le commissaire, pour un mouchoir. Car il cherchait un mouchoir, si encore, il me l'avait demandé, mais pas un mot. Tout de même, quand j'ai vu qu'il fouillait dans mes tiroirs, qu'il bousculait mes rayons, j'ai voulu m'en mêler, pas vrai, monsieur le commissaire. Je suis bien aise de vous voir. Comment vous portez-vous, hein? En quoi vous nous protégerez, monsieur le commissaire? Vous nous protégerez sans quoi, comme dit madame Langlois, il n'y a plus de justice. Et vous êtes juste, monsieur le commissaire. Oh, je suis une pauvre vieille demoiselle, bien tranquille, qui n'a jamais voulu se marier malgré les occasions. Et il m'arrive une histoire pareille. Mais demandez à toutes ces dames qui sont venues à la camomille de mademoiselle Baresca depuis 20 ans. Oui, monsieur le commissaire, je suis à vous. Oh, je vous appartiens, vous êtes un homme juste. J'y suis. Ah, oui, quand j'ai donc vu qu'il fouillait dans mes tiroirs, et comment, alors j'ai voulu m'en mêler. Mais au premier geste que j'ai fait, monsieur Birouste, l'herboriste, m'a crié « Oh, les mains !» Il a même, sauf votre respect, monsieur le commissaire, et que je m'en demande pour lui bien pardon du bon Dieu, il a juré comme un portefaix. Il paraît que le Gabriel ne nous aurait pas manqué avec son revolver si nous n'étions pas restés comme ça, les mains en l'air, comme au cinéma que je vous dis. Monsieur le commissaire, vous êtes allé au cinéma. Oui, bien, vous êtes un homme juste. Vous protégerez une vieille demoiselle qui... Ah oui, bien, j'y suis. Et toujours pas un mot. Si encore il avait parlé, on aurait pu s'entendre. Mais il voulait peut-être pas qu'on reconnaisse sa voix. Sans compter qu'il était habillé comme un déguisé du temps de la Révolution. Une longue cape, un chapeau à boucles, toujours comme au cinéma. Madame Langlois avait raison, mais la vie, monsieur le commissaire, voyez-vous la vie.
Mais il se passe dans la vie des choses qu'on voit même pas au cinéma. Ainsi, jamais j'ai vu à l'écran, comme on dit, une boutique de mercière, comme a été traitée la mienne, un vrai massacre. Moi qui étais en ordre, on aurait dit qu'un fléau avait passé par là, un volcan n'aurait pas fait mieux. Ah, monsieur le commissaire, mon cher Ting et mon madapola, ils marchaient dessus. C'était-il des dentelles qu'il lui fallait? Tout mon trou-trou, ce n'est qu'une éponge, et mes boîtes de coton perlé, mes écheveaux de soie japonaise. Et allez donc, tous les cartons vidés d'un coup, jetés en vrac sous nos pieds, si c'est pas un malheur. Et ma laine de Hambourg, et la petite laine Saint-Pierre, oh, j'en aurais pleuré. J'aurais voulu l'étrangler, mais sitôt que je remettais en soi peu, j'entendais M. Birouste qui criait « Oh, les mains, nom de Dieu !»« Sauf votre respect, monsieur le commissaire. » Et tout ça, pour arriver à ma mousseline blanche, qui a paru faire l'affaire de Gabriel, et avec laquelle il a pansé la pauvre demoiselle. Mais moi, qu'est-ce qui me rendra, mon cher Ting et mon madapolam? Ce sera-t-il vous, monsieur le commissaire? Quant à Madame Camus, la loueuse de chaises, voici quels furent ses premiers mots. Il était terrible, mais qu'il était beau. J'en ai vu de beaux hommes, monsieur le commissaire. Je sais ce que c'est aller. J'ai pas toujours été loueuse de chaises chez les curés. Mais tel que vous me voyez, moi, monsieur le commissaire, j'ai été demoiselle de comptoir dans un temps où, dans mon commerce, la demoiselle de comptoir, c'était tout. Je vous prie de croire qu'on les choisissait les moins moches possibles. J'en ai reçu des billets parfumés, et j'en ai vu défiler des gants jaunes, c'est comme ça qu'on les appelait de mon temps, qui a connu de beaux hommes, mais un aussi beau que celui-là, ma foi. Non, j'en ai jamais rencontré. Et il fallait qu'il le soit pour que je le remarque dans un moment pareil, où nous pensions tous que c'était fini de nous tant il avait l'air brutal. Ce n'est certainement pas M. Birouste qui nous aurait sauvés de là, pour sûr. Je vous jure qu'il avait lâché ses grands airs, monsieur l'herboriste. Il connaît plus, allez. Il grelottait derrière le comptoir et s'époumonnait à nous crier « Oh les mains, nom de Dieu !» Tel que je vous le dis, je crois bien que si nous les avions baissés les mains, il aurait pris le revolver que Gabriel avait posé à côté de lui et il nous aurait tiré dessus. Un homme, ça, qui fait de l'épate parce qu'il est herboriste, c'est fini entre nous. Je lui achèterai plus de pulmonaire. Vous me suivez, monsieur le commissaire. Et vous me comprenez, j'en suis sûr. Pendant ce temps-là, l'autre ne pensait qu'à soigner sa Christine. Tout pour elle, voilà ce que j'appelle un homme. Tout bandit qu'il est. Et il nous a fait passer un bien vilain moment. Mais quel homme! Pas un muscle de sa face ne bougeait. Le sang ne lui faisait pas peur à celui-là. Et quand il a voulu l'essuyer au front de sa victime, et qu'il ne trouvait pas tout de suite le linge qu'il lui fallait, ah, je vous prie de croire que la boutique de Mademoiselle Baresca n'a pas pesé lourd. Entendu, oh, sûr qu'il avait enlevé la Christine. Elle lui résistait. Il l'a emporté de force, probable qu'il s'est produit un accident dans le petit voyage, d'où le sang dont ils étaient couverts. Avec cela, il était poursuivi, traqué. Il a vu la lumière sous la porte de Mademoiselle Baresca, et il a frappé au hasard. Madame Camus lui a ouvert. Il s'est jeté dans la boutique. Voilà comment je m'explique les choses. S'il y en a de plus malin que moi, qu'ils le disent. La Christine, elle n'ouvrait toujours pas les yeux. Il lui a jeté au visage tout ce qui restait de la camomille de Mademoiselle Baresca, qui avait refroidi. Il a réussi qu'à la débarbouiller. Cette pauvre demoiselle Norbert n'a vraiment pas de chance. Oh, qu'est-ce qui aurait cru ça? Quand, le dimanche à l'église, j'avais terminé ma tournée de gros sous,
Oh, un métier difficile, monsieur le commissaire, car il faut avoir l'œil partout, surveiller à la fois ceux qui restent, ceux qui vont partir et ceux qui se défilent, sans avoir mis la main à la poche. Eh bien, j'avais encore un œil sur la belle Christine, qui était sage comme une image de première communion, et à qui on aurait bien sûr donné le bon Dieu, sans confession. Et voilà qu'on la trouve chez le bénédicte maçon, dans quel état. Et voilà qu'elle ne valait guère mieux dans les bras de ce Gabriel. Gabriel qui? Gabriel quoi? Le saura-t-on jamais? Est-ce que ça peut être vrai, ce qu'on commence à raconter, et ce dont nous avons peur? En fait, de Gabriel, je ne vois que l'ange du même nom, qui peut être comparable à ce Gabriel-là. Dieu qu'il est beau! Moi, je vous le dis comme je le pense, monsieur le commissaire. J'aurais pas pu lui résister du temps que j'étais demoiselle de comptoir, bien entendu. En ce qui concerne M. Birouste, dont le rôle est loin d'être terminé, comme nous allons le voir très prochainement, ne retenons pour le moment que cette déclaration. Monsieur le commissaire, moi, je n'ai pensé qu'à une chose, à sauver la vie de ces trois pauvres femmes. Grâce à mon sang-froid, à ma présence d'esprit, je laisse à d'autres le soin d'ajouter à mon courage. J'ai pu éviter que ce misérable ne laissât que des cadavres derrière lui. Je n'ai fait que mon devoir, monsieur le commissaire, mais je l'ai fait. Je vous le dis sans orgueil, simplement, comme il convient à un herboriste qui vit dans l'étude consolante des plantes et qui n'a rien d'un héros de mélodrame. Maintenant que, par ce rapide aperçu sur l'état d'âme de nos personnages, nous pouvons nous faire une idée de la perturbation apportée autour de la camomille de Mademoiselle Baresca par l'invasion foudroyante du terrible visiteur, nous allons continuer de narrer les faits tels qu'une enquête approfondie les a reconstitués depuis. Pour la santé morale déjà fortement ébranlée de Mademoiselle Baresca et de ses invités, il est heureux que le séjour de Gabriel chez la mercière de la rue de Saint-Sacrement ne se soit pas prolongé outre mesure. Gabriel était d'une brutalité farouche dans tous ses gestes, mais il était loin de paraître sans inquiétude. Souvent, il allait appliquer son oreille à la porte de la rue, écoutant les bruits du dehors, et revenait donner ses soins à Christine, laquelle ne donnait toujours pas signe de vie. La tempête de vent et de neige qui s'était élevée commençait à s'apaiser. On entendit soudain un bruit de pas qui se rapprochait rapidement, et aussi des voix dans la rue. Gabriel, toujours muet, il n'avait pas encore prononcé un mot, se retourna vers Mademoiselle Baresca et ses invités, qui, les mains en l'air, semblaient figés par l'épouvante dans une attitude de supplication et de tragique ahurissement, leur lança un coup d'œil effroyable, fouilla dans sa poche, en tira un petit carnet et un stylo, écrivit quelques mots, arracha la feuille, tout cela en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, et la fit passer sous les yeux des trois pauvres femmes qu'un même sentiment d'horreur avait collé en quelque sorte les unes contre les autres. Elles n'eurent point plutôt jeté les yeux sur le mot du papier qu'il leur tendait, qu'elles poussaient en même temps un cri à faire frissonner les cœurs les plus solides, cri vite étouffé par la vision du bondissement singulier de Gabriel, lequel semblait mu comme par un ressort et qui avait ressaisi son revolver dont il les menaçait à nouveau. Monsieur Birouste, pour être dérangé le moins possible et pour mieux veiller sans doute à la sécurité de ces dames en ces tragiques conjonctures où il fallait en outre de la décision, s'était enfermé derrière le comptoir comme un capitaine de vaisseau sur sa dunette à l'heure du péril. Et de cet endroit qu'il avait choisi comme poste de combat, il n'avait pu encore rien lire. Et Gabriel, qui ne l'avait pas oublié, lui jeta son petit papier et ce fut au tour de l'herboriste de commencer un cri qu'il n'acheva point, pour le même motif que nous avons dit précédemment. Pendant ce temps, les pas et les voix s'étaient encore rapprochés. Gabriel avait repris Christine sur son bras et, tourné vers la porte, revolver au poing, il attendait les événements dans une posture redoutable. Les pas et les voix s'arrêtèrent devant la porte et l'on entendit ce dialogue haletant. Je vous dis qu'il n'est pas sorti de la rue. Oh, il peut être bien loin, mais il y a encore de la lumière chez Mademoiselle Maresca. Elle a peut-être entendu quelque chose. À ce moment, Gabriel, d'un geste prompt, tourna le commutateur qui se trouvait près de la porte de communication avec l'arrière-boutique. Ainsi, l'obscurité fut faite dans la boutique, mais l'arrière-boutique restait toujours éclairée. Ce que voyant, Gabriel se glissa sans bruit dans l'arrière-boutique sans lâcher son précieux fardeau. Monsieur Birouste, Mademoiselle Maresca, Madame Langlois, Madame Camus ne respiraient plus, ils étaient statufiés. La lumière qui leur venait encore de l'arrière-boutique s'éteignit à son tour. Ce fut assurément le moment le plus terrible de toute leur vie. Le colloque continuait devant la porte. Madame Langlois avait reconnu la voix du vieux Norbert et celle de Jacques Cotentin. « La lumière s'éteint !» disait Jacques. « Et si nous frappions ?» proposa l'horloger. « Nous allons peut-être perdre un temps précieux. Nous n'avons qu'à fouiller tous les coins et recoins de l'île. Il ne peut pas être sorti de l'île. Il ne peut pas traverser les ponts sans être vu, avec Christine sur les bras. » Un court silence, puis « Eh, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» fit entendre la voix sourde du vieux Norbert. « Mais c'est la cordelière de sa cape !» s'exclama le prosecteur. « Elle est prise dans le coin de la porte !» fit l'horloger. « Mais il est entré là hein, !» s'écria Jacques. « Oui, il est là. Il est chez Mademoiselle Maresca. » Et aussitôt, des coups répétés furent frappés contre la porte. Personne n'y répondit. Alors ils les appelèrent « Mademoiselle Maresca ! Mademoiselle Maresca !» Mais ce fut en vain. « Ça, c'est extraordinaire ! Et Mademoiselle Maresca ! Mademoiselle Maresca !» Et les coups reprirent avec furie. Une fenêtre s'ouvrit dans la rue et une voix s'exclama. « Mais qu'est-ce que vous lui voulez à Mademoiselle Maresca ? À cette heure-ci, il y a longtemps qu'elle est couchée, Mademoiselle Maresca !» Et la fenêtre se referma vivement. Il faisait très noir, il tombait de la neige, et puis il y avait peut-être bien aussi de la peur dans la rue. Maintenant, l'horloger Jacques ne frappait plus, il défonçait la porte. Jacques se ruait contre elle et s'y meurtrissait l'épaule. Le pauvre verrou ne résista pas longtemps. La porte s'ouvrit, ils se précipitèrent dans le noir et le silence. Ils appelèrent encore Mademoiselle Maresca. Jacques alluma son briquet à la lueur duquel il aperçut, avec l'étrange relief que donne un faible foyer de lumière aux objets qu'il fait surgir de la nuit, quatre statues, les bras en l'air, la bouche ouverte, les yeux immenses. La cendre chaude du Vésuve n'a pas plus immobilisé dans leurs derniers gestes les habitants de Pompéi que la peur, la grande peur, celle qui est soufflée à certaines grandes époques de l'histoire sur les humains par une émanation des enfers, par une exhalaison du grand mystère noir, n'avait momentanément momifié Mademoiselle Maresca et ses invités depuis qu'ils avaient lu le papier que Gabriel leur avait passé sous le nez. Ces quatre statues surgissaient de l'ombre au milieu d'un désordre inexprimable auquel se heurtaient les pas chancelants du vieil horloger et de son neveu, et que ceux-ci purent mesurer complètement quand Jacques Cotentin eut tourné le commutateur électrique. Certes, Gabriel avait passé par là. La première trace de son passage n'était-ce point cet anéantissement, cette abolition des sens chez les quatre premiers individus avec lesquels il s'était trouvé en contact depuis qu'il s'était échappé de sa cage. Puis venait l'incroyable bouleversement de cette pauvre petite boutique. Quelle tornade du mieux fait que Gabriel dans un aussi petit espace. Et enfin, du sang sur le comptoir, du sang sur les précieuses dentelles de Mademoiselle Varesca, du sang sur les murs, le sang de Christine. Ah, ils essayèrent de réveiller ces momies, de les faire parler. Mais rien, rien, ils avaient beau les bousculer, elles continuaient de les regarder en silence. Et où est-il passé? Où est-il passé? Ma fille, où est ma fille? Mais dites-moi donc ce qu'il a fait de ma fille. Ils se ruèrent dans l'arrière-boutique. Personne. Mais une porte ouverte sur une petite cour arrière, et dans cette petite cour une autre porte, et ses pas sur la neige. Et les voilà dans une impasse qui conduit là-bas par un détour entre deux hauts murs jusqu'au quai. Ils s'élancèrent vers les quais. Alors seulement, quand elles comprirent bien que Gabriel n'était plus là, qu'il n'y avait plus de doute sur sa fuite et qu'il avait repris sa course en emportant sa victime dans la nuit et dans le mystère d'où il était sorti pour leur épouvante, de laquelle Mademoiselle Varesca ne se guérit jamais complètement, les quatre statues baissèrent les mains, leurs bras retombèrent et ce fut M. Birouste qui leur donna le premier l'exemple. Après quoi, M. Birouste, sans écouter davantage ces dames qui le suppliaient de ne pas les quitter, gagnait rapidement la porte de la rue et se hâta de rentrer chez lui. Il n'avait pour se faire que quelques mètres à franchir puisqu'il habitait la maison voisine. Ces trois dames résolurent alors de passer la nuit ensemble. Elles se barricadèrent, poussèrent des meubles devant les portes en tenant les propos les plus incohérents, se réfugièrent finalement dans la petite pièce qui servait de chambre à Mademoiselle Varesca, et y passèrent le reste de la nuit. Inutile de dire qu'elles ne dormirent point. Elles n'essayèrent même point de causer. Elles avaient reçu un coup qui les avait démolies pour longtemps. Elles ne pensaient qu'à une chose, c'est à ce papier que leur avait fait lire Gabriel et sur lequel il avait tracé ces mots « Si vous tenez à la vie, silence !» Ces sept mots étaient, à tout prendre, une menace capable d'effrayer des esprits timides, mais ce n'était point le sens de ces mots-là qui avait précipité au fond d'une horreur sans nom nos quatre personnages. Si nous les avons vus tout à coup réduits à rien, à moins que rien, c'est que dans ces sept mots tracés par Gabriel, ils avaient reconnu l'écriture de Bénédicte Masson.